Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Bonjour, la blague du jour. Quel est pour vous donc le sport préféré donc des insectes ? Je vous laisse réfléchir. Eh bien aujourd'hui, c'est le cricket.
Saloperie, nuisible, ragoûtant, malin, utile, petit, mignon, peur, phobie, omniprésent, six pattes, incruste, travailleur, miel, pollinisation, transmission de maladies, CC, petite bête à bon Dieu, chaîne alimentaire, microcosmos, plaie d'Égypte, antenne de radio. Vous l'aurez compris, et pour vous mettre la puce à l'oreille, nous allons vous parler aujourd'hui de nos amis les insectes. Oui, ceux qui vivent dans les maisons, les arbres, squattent vos animaux ou vous-même. Tous les jours, vous mettez les pieds dessus, mais aujourd'hui, nous allons vous les présenter dans l'assiette. Ce n'est toujours pas la petite bête qui va manger la grosse, car dit-on, l'insecte est la nourriture de l'avenir avec toutes ses bonnes vertus. La consommation d'insectes comestibles est une pratique ancestrale. Le philosophe Aristote faisait déjà l'éloge des nymphes de cigales en les décrivant comme ayant une saveur exquise. Les Romains, quant à eux, se délectaient des larves de scarabées. La Bible et le Coran mentionnent la consommation d'insectes. Au XVIIIe siècle, on prêtait la consommation de certains insectes des vertus médicinales. Pour nous éclairer sur cette question clino-entomologique, nous recevons aujourd'hui Clément et Bastien de la société Jiminy's.
Au sommaire aujourd'hui, une interview pas piquée des hannetons, un épisode du narvalo qui a toujours des fourmis dans les jambes, une recette de la petite cuisine d'ozone anti-taille de guêpe, le travail de fourmis du micro-trottoir, des lectures du point des mots à vous guérir du cafard, la chronique du pôle victime d'une araignée au plafond, et comme on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, une superbe sélection musicale. Pour vous servir aujourd'hui, Didier, Cole, Rémi, Stéphane, Sandrine, Béatrice et Timothée, avec une grosse pensée pour Jean de la Lune.
Lecture point des mots. Lucky Luke. Je me souviens de mon ombre, moi Lucky Luke. Je me souviens de Pearl Harbor, moi MacArthur. Je me souviens de la Torah juive, moi le japonais, et combien l'on m'a saqué et rayonné ce jour-là. Je me souviens de Ringo, John et George, moi Paul McCartney. Je me souviens ce que j'ai oublié de dire il y a 50 ans, et cela me fera mourir. Je me souviens, j'ai cru voir un romine ayant rubé. Je me souviens de mon premier amour, puis de ma mort. Je me souviens, Charlie, je me souviens qu'hélas il faut se souvenir. Je me souviens qu'il faut oublier et pardonner souvent, hélas ou heureusement. Je me souviens, mais je ne me rappelle pas de quoi, mais mon oubli, je m'en souviens. Je me souviens qu'il faut être poli avec les gauchos, les fachos, l'extrême droite, la gauche et les intellectuels. Je me souviens qu'il y a une vie, je me souviens qu'il y a une fin, mais je ne me souviens pas du début. Je me souviens qu'il faut se lever avant de se coucher et que l'on peut se coucher. Je me souviens sans plus jamais se lever. Je me souviens des tortures, des méfaits, des on-dit, mais pas du respect. Je me souviens de ma première fessée, ce fut délicieux. Je me souviens, docteur, dites 33, et de ma nièce qui a eu la semaine dernière ce chiffre 33 ans en âge.
Thank you.
venons d'écouter Vaudou Trombone Quartet avec le titre Insect Song. Bonjour auditeurs, en 2050, nous serons 9 milliards d'humains à une mouche près. La question se pose de savoir comment nourrir tout ce monde. De plus en plus, il se dit que la consommation d'insectes serait une solution. D'ores et déjà, la société Jiminy's, basée sur le département de l'Eure, commercialise des insectes à déguster. Nous sommes au téléphone avec Clément Cellier de la société Jiminy's pour en parler. Clément ?
Oui ?
Oui, bonjour. Bonjour, merci. Pouvez-vous nous dire tout d'abord quelle est votre fonction dans la société Jiminy's ?
Alors, je suis le cofondateur, donc associé. C'est une entreprise que nous avons créée avec mon associé Bastien Rabastens. Et moi, particulièrement, je m'occupe de toute la partie marketing et commercialisation.
D'accord. Que pensez-vous de cette hypothèse à propos de l'année 2050 et la consommation d'insectes ? Est-ce une solution adaptée pour vous ou la solution logique ?
Alors, je pense que, d'abord, cette question de l'échéance de 2050 se pose effectivement, mais l'insecte, entre guillemets, est considéré comme une des solutions voilà, à la pénurie probable, on va dire, de protéines en 2050. Mais il faudrait commencer déjà à en manger, nous occidentaux, puisque nous sommes aujourd'hui les principaux consommateurs de viande traditionnelle. Donc cette question se posera et on aura cette réponse si on commence à en manger dès maintenant, puisque évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne suffira pas d'appuyer sur un bouton magique pour que tout le monde se mette à accepter les insectes dans son alimentation. Donc c'est là où nous on se positionne avec des produits qui sont faits justement pour faciliter cet accès à la consommation. Donc je pense que effectivement les insectes sont une bonne solution d'avenir, mais qu'il faut commencer à travailler dès maintenant sur l'acceptation de l'insecte en tant qu'aliment.
Alors Clément, pouvez-vous nous décrire votre société ?
Oui bien sûr, alors Jiminy's c'est avant tout un début de réponse à cette question justement de comment faire manger les insectes aux Français. Donc on a développé une gamme de produits apéritifs donc autour d'insectes qui sont assaisonnés, cuisinés, on va dire, et déshydratés. Donc on garde un côté croustillant. Nous, on a fait le pari de garder l'insecte entier pour justement ne pas le cacher et assumer cet aspect novateur, on va dire, de la consommation d'insectes. On ne ment pas aux clients, on ne cherche pas à cacher la matière première qu'on utilise. On va manger des insectes pour l'apéritif, ça va être ludique, ça va être sympathique. Ça va être différent des chips et des cacahuètes. Et surtout, on va habituer petit à petit les gens au fait qu'on peut manger des insectes. Donc en gros, on a aujourd'hui 5 produits qui sont commercialisés autour de 2 insectes, donc le criquet et le molitor. Le molitor, c'est une sorte de petit verre de farine qui sont assaisonnés, donc prêts à manger, croustillants, et ont un goût de ce qu'on va mettre dessus. Donc par exemple, on va avoir le criquet poire et tomate séchée ou le molitor ail et fines herbes.
Entre nous, pourquoi ce nom de Jiminy's ?
Alors Jiminy's, c'était, on cherchait un nom qui évoque quelque chose de sympathique, qui puisse se prononcer dans toutes les langues. On a le petit côté, on va dire, transgressif, pas transgressif, excusez-moi, plutôt qui remémore des souvenirs d'enfance avec certains personnages qu'on va pouvoir retrouver dans des dessins animés, etc. Donc il nous fallait un nom qui soit justement sorti du contexte des insectes, etc., avec une vraie marque forte qui puisse s'accepter et qu'on puisse avoir un aspect, on va dire, émotif et émotionnel dans l'accès à cette marque. Par conséquent, on a choisi Jiminy's.
Et qu'est-ce qui vous a amené aux insectes, à cette idée de vendre des insectes ?
Alors, dans un premier temps, on a commencé par en goûter et en manger avec Bastien. Donc, on a tout simplement essayé, on a regardé une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats étaient obligés de manger des insectes, pratiquement crus, etc. C'était pas très ragoûtant, mais ça nous a quand même, on va dire, donné envie de goûter et de nous faire notre propre idée. Donc, on en a acheté sur un site internet thaïlandais à l'époque. Donc, on a essayé, au bout d'une semaine, quand on a reçu nos insectes, de les cuisiner, d'en faire un petit peu des quiches, des cupcakes, etc. Et finalement, ça a été assez sympa. Donc on s'est dit, mais c'est marrant, ça n'existe pas en France, on peut en trouver, c'est difficile. Pourquoi pas creuser un petit peu la question et s'y intéresser. Et puis après, on a découvert tous les aspects environnementaux, nutritionnels, etc. Et tous les intérêts qu'on pouvait avoir à manger des insectes. Donc on s'est lancé dans une étude de marché qui finalement a révélé un potentiel de marché intéressant pour nous.
Quels sont les acheteurs actuels ?
les acheteurs actuels. Alors, on va dire qu'on a trois typologies de clients. On a, on va dire, l'aventurier, donc la personne qui achète des insectes pour le côté très, très expérientiel, le côté transgressif, je vais goûter les insectes, je vais me faire peur. Ça va être vraiment une expérience pour cette personne, une expérience qui a pratiquement même pas de rapport avec le côté culinaire, ça va être plutôt le côté psychologique qui va prendre le pas. Donc ça va être le premier, la première typologie. Ensuite, on va avoir les curieux, on va dire, et les personnes intéressées par l'aspect culturel, je dirais également culinaire et environnemental de l'insecte, puisque c'est une culture culinaire qui est présente dans on va dire, ce deux tiers de la planète. Et enfin, on va être confronté aussi à des acheteurs plutôt qui ont plutôt l'aspect social, à savoir, je vais ramener des insectes pour épater la galerie à l'apéro, pour changer des chips, des cacahuètes, et pour partager un moment de découverte sympathique entre amis. Voilà, ça va être nos trois typologies de clients.
Et comment peut-on acheter vos produits? Est-ce que vous faites de la vente directe ou vous passez?
Oui, alors on a aujourd'hui deux types de canaux de distribution. Enfin, on a le site internet, jimmys.com, sur lequel on peut trouver les produits, et également effectivement des points de vente physiques en épicerie fine, grand magasin. On est présent en France et en Belgique.
Nous avons vu que sur votre site, vous aviez plus de boutiques partenaires en Belgique qu'en France. Pour quelle raison cela?
Alors en fait, c'est pas une question qu'on a plus, c'est tout simplement techniquement parlant, on a un problème avec notre petit module d'affichage des points de vente. Et donc on a autant, enfin on a beaucoup plus de points de vente en France qu'en Belgique. Mais bon, pendant un moment, il fallait qu'on refasse le site, on est en cours de refonte. Donc normalement, d'ici un ou deux mois, quand on aura trouvé l'agence avec qui travailler, ça sera mis à jour.
Et avez-vous des projets pour vous agrandir?
Oui, bien sûr. Alors, on travaille déjà actuellement sur l'élargissement de notre gamme apéritive. Donc, on a déjà deux nouvelles références qui sont des criquets au paprika et à la grecque qui vont sortir. Et également une nouvelle gamme, donc cette fois-ci totalement différente. On va inviter nos clients à passer au fourneau et à sortir de l'apéritif, du coup, avec une gamme nature qui s'appellera la gamme origine et des insectes nature prêts à manger, prêts à cuisiner plutôt, qu'on pourra intégrer dans des préparations, faire par exemple des nuggets de criquets ou des petites salades, ce genre de choses. Donc ça va faire partie de nos axes de développement sur les prochains mois.
Alors je vous propose maintenant d'écouter un micro-trottoir pour entendre comment les gens réagissent à l'idée de manger des insectes.
Bien sûr.
Si on vous invite au restaurant et qu'on vous offre un plat d'insectes, comment vous réagissez?
Ah bah, j'en mange pas.
Vous en mangez pas?
Non.
D'accord, pourquoi?
Parce que c'est peut-être une question de culture. Hein. On est un peu rébarbatif à ça. Et bon, forcément, aller au restaurant pour manger ça, c'est dommage.
C'est non. Ah je ne mangerai pas. Non,
vous
ne
mangeriez pas?
Non.
Bon, j'ai aucune idée.
Ouais.
Faut goûter, faut voir.
Ouais.
Je goûterai.
D'accord. Et quel insecte vous mangeriez en premier, s'il y avait une carte d'insectes dans le restaurant?
Sauterelle, comme Jean-Baptiste.
Très mal, hein.
C'est vrai?
Bah carrément. Carrément.
Vous restez pas avec nous en fait. Hein.
Non, du tout.
Et pourquoi?
Non, je déteste. Alors non, faudra pas me faire manger ça, c'est pas dans mon alimentation. Alors bon, bah non, je conçois pas de manger des insectes.
Je goûte.
Vous goûtez?
Oui.
Et quel insecte mangeriez-vous en premier alors? Qu'est-ce qui vous fera envie?
Je connais pas ces plats. Peut-être un insecte à la carapace pas trop dure.
Ouais.
Des choses très très petites, des fourmis, des choses de petits.
D'accord. Et à votre avis, ça a quel goût?
J'en ai aucune idée. Non, je sais pas.
Je serais surprise.
Ouais.
De plus, je suis végétarienne, donc je serais un petit peu embêtée. Voilà.
Je le mange pas.
Pourquoi?
Non, ça me dit trop rien dans les insectes.
D'accord.
Je goûte.
Ouais.
Je demande ce que c'est, puis après, oui, je goûte si ça me semble pas trop révulsant ou... Ben voilà, probablement ce que je ferais.
Moi, je pense que ça me dérangerait pas, mais c'est pas pour autant... Enfin, j'aurais beaucoup de mal, je pense, à goûter ou quoi que ce soit.
Et vous mangeriez quel insecte en premier?
Les sauterelles.
Les sauterelles? Et pourquoi?
Je sais pas, c'est le premier insecte qui me vient à l'esprit. Il y a beaucoup de cultures, il me semble, où ils mangent des sauterelles, donc est-ce que ça doit être bon, peut-être? Voilà.
Et vous?
Aucune idée. Franchement, moi, les insectes, à manger, c'est pas ce qui m'attire le plus.
Et vous pensez que ça a quel goût la sauterelle alors?
Je sais pas. Ça doit être croustillant.
Alors si on vous invite au restaurant et qu'on vous offre un plat d'insectes, comment vous réagissez?
Mal.
Pourquoi?
Parce que je n'aime pas les insectes et j'ai bien peur que ce soit la nourriture de demain et je veux pas y penser maintenant.
Oui, alors on entend qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Avez-vous des réactions sur ce qu'on vient d'entendre?
Alors oui, bien sûr, c'est évidemment pas une surprise pour nous. Hein. J'ai envie de dire que Rome ne s'est pas bâti en un jour et qu'il y a une quinzaine d'années, manger du poisson cru, par exemple, hein, je prends l'exemple des sushis, c'était absolument pas naturel et les gens avaient des très très forts a priori sur la consommation de poissons crus. Hein. Donc les insectes, ça va pas prendre un an, ça va prendre 5 ou 10 ans avant d'arriver à des niveaux de consommation, je veux dire, grand public. Aujourd'hui, on est sur un marché plutôt de niche et qui se développe malgré tout. Et de toute façon, les insectes ont de l'avenir puisque, au final, il y a énormément de jeunes générations qui ont déjà goûté nos produits et ils reviennent, et notamment des enfants. On a fait pas mal de tests avec des enfants qui n'ont aucun a priori puisqu'on leur a pas encore inculqué entièrement leur culture culinaire. Donc effectivement, c'est des réactions qu'on rencontre régulièrement. Il y a des personnes qui ne mangeront jamais d'insectes, entre guillemets, qui préféreront peut-être limite mourir de faim ou manger n'importe quoi d'autre, mais tout sauf des insectes, et ça je respecte tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont tout à fait ouvertes au fait de manger des insectes et donc en consommeront de plus en plus. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que l'objectif de Genius, c'est de faire rentrer les insectes au menu des Européens, mais pas de remplacer toute leur nourriture. C'est pas du tout notre positionnement. Nous, on est vraiment sur apporter une solution supplémentaire à potentiellement les besoins alimentaires du futur, mais on n'est pas du tout là pour apporter la solution, puisqu'il n'y aura jamais une seule solution, il y aura toute une somme de facteurs, et je dirais que la première solution, ce serait déjà de réduire le gaspillage alimentaire, qui permettrait évidemment de faire beaucoup d'économies sur tous nos besoins en termes d'alimentation. Donc ce ne sera pas forcément tout de suite les insectes, ce sera d'abord ces solutions-là, et les insectes feront partie, je dirais, d'une évolution globale de notre alimentation.
Chez vous, Jiménez, pourquoi privilégiez-vous les vers et les criquets?
Alors, nous, on a dû faire des choix quand on a créé notre entreprise. Et le premier a été finalement de choisir nos fournisseurs, donc d'insectes, en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que en Europe, on a des critères d'élevage, de traçabilité, d'hygiène qui sont, très très élevés, très exigeants. Chose qu'on ne va pas du tout avoir soit en Asie, soit en Afrique, soit en Amérique latine, où les élevages et la consommation d'ailleurs est beaucoup plus traditionnelle. Donc on a voulu tout de suite offrir à nos clients un niveau de qualité maximal. Donc forcément en Europe, on a moins de producteurs, on a moins aussi d'espèces d'insectes qui sont naturellement présentes. Par conséquent, on a tout de suite restreint le champ des possibles, je dirais, des insectes qu'on proposerait, à savoir le criquet et le ver de farine, qui sont deux insectes totalement maîtrisés dans leur élevage et qu'on retrouve communément chez les éleveurs, justement, européens.
Alors, justement, comment élève-t-on des insectes?
Alors, en fait, c'est assez similaire à des élevages traditionnels, je dirais, d'animaux, hein, c'est-à-dire que vous avez des hangars, entre guillemets, des batteries. Je peux prendre par exemple un parallèle avec des poules, sauf qu'évidemment ce ne sont pas les mêmes animaux. Vous allez avoir des bacs avec les vers de farine qui vont vivre dedans, dans un substrat de farine végétale. Et par exemple pour les criquets, vous allez avoir aussi des grands bacs avec des colonies de criquets entre guillemets, qui grandissent et qui sont suivies à leurs différents stades d'évolution. Donc finalement on est vraiment dans de l'agriculture. On n'est pas du tout, c'est pas du tout éloigné de l'agriculture qu'on connaît nous traditionnellement.
À quelle réglementation êtes-vous soumis?
Alors aujourd'hui, c'est la question justement qui aujourd'hui pose problème, en fait, entre guillemets, c'est que la réglementation européenne n'avait pas du tout prévu et ne prévoit pas, en fait, la consommation d'insectes dans ces textes. Donc aujourd'hui, nous sommes en attente justement d'une réglementation spécifique au cas de l'insecte qui devrait arriver, on l'espère, d'ici 1 ou 2 ans, ou même peut-être dans l'année 2015. Mais aujourd'hui, du coup, on est, nous, personnellement, dans un vide juridique qui fait que on suit les réglementations générales de l'agroalimentaire, donc avec la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire, d'une procédure HACCP, de tous les outils, on va dire, de traçabilité et de qualité qu'on va retrouver en général dans l'agroalimentaire, mais il n'y a pas encore de réglementation spécifique au cas d'insectes. Vous avez notamment, par exemple, des pays comme la Belgique ou l'Angleterre qui ont décidé de mettre en avant donc ces industries, ou les Pays-Bas, excusez-moi, et qui proposent aujourd'hui des règlements spécifiques, mais ce n'est pas encore le cas de la France.
Et avant qu'on mange les insectes, qu'est-ce qu'ils mangent, eux, les insectes ?
Alors les insectes, comme je vous le disais, ils mangent des farines végétales, donc sans OGM, pas encore bio, mais sans OGM et sans, on va dire, vous n'avez pas retrouvé d'anabolisants, d'accélérateurs de croissance, etc., dans les farines et dans ce qu'on leur donne. Donc c'est aussi l'intérêt de l'insecte, c'est qu'il a beaucoup moins de potentiel, entre guillemets, de transmission de maladies ou de choses comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins besoin de les doper, entre guillemets, ou de leur bourrer l'alimentation de, comment dire, d'antibiotiques ou d'autres choses, comme c'est le cas aujourd'hui de l'alimentation classique, je dirais l'alimentation animale classique.
Vous avez eu vos premiers insectes en Thaïlande, vous nous avez dit.
Mais mis ah oui, ceux qu'on a goûté, effectivement.
Oui, mais mis à part la Thaïlande, est-ce que vos insectes sont-ils français ou proviennent-ils de l'étranger, mis à part de l'Europe ?
Alors non, absolument pas. Tous nos insectes viennent uniquement d'Europe. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des fournisseurs en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Et on se fournit uniquement dans ces pays-là, donc sur le sol, entre guillemets, européen. On ne fait rien importer de l'étranger.
Et
de l'étranger hors Europe.
Ouais, une question bête, est-ce qu'on il y a une forme d'attachement aux insectes ? Est-ce que vous leur donnez des noms ?
Non, absolument pas. Absolument pas. Au même titre que vous n'avez pas donné un nom à votre poulet quand vous le mangez.
Bon, bah, on est déjà au terme de cette interview, donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet jimnis.com.
D'accord, je vous remercie.
Voilà. Au revoir, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au café rêvait un lion devant sa consommation. Il voit venir une abeille, vêtue d'un tailleur querelle, de noir avec le soleil, une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne, avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine, un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion, devant sa consommation. Il voit venir un moucheron, vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille, avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu s'éseilles, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, ou tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort. Le lion n'a rien vu venir, le moucheron sans prévenir lui a mis un coup de Satan à la pointe du menton. Il n'en revient pas le lion, et ce n'est qu'un échantillon. Un coup dans les testicules, ça c'est de la part de Jules. J'aime pas tellement qu'on me bouscule quand je me rince les mandibules. Cette histoire est une fiction, Moi, j'ai rencontré le lion. Je lui ai mis, c'est ridicule, un coup dans les testicules. Il m'a dévoré tout cru au beau milieu de la rue. Je grésille, je zézeille, et dans le dos j'ai des ailes. J'ai l'éternité au ciel grâce à mon exploit de la veille. Ta-da, 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 ta-da.
Nous venons d'écouter de Thomas Fersen les valeurs du lion. Maintenant, les gourmands à vos assiettes, nous allons vous présenter la petite cuisine d'Ozone.
Bien, bonjour, ici l'équipe, la petite équipe de cuisine d'Ozone. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très goûteux, très bon, que tous les enfants apprécient. C'est un cookie ozonien pour 8 personnes. Alors pourquoi ozonien ? Parce que c'est un cookie sans insectes. Les prochaines émissions vous expliqueront pourquoi.
Pour faire cette recette, on a besoin de 160 g de sucre, 180 g de beurre, 250 g de pépites de chocolat, un sachet de levure, 2 sachets de sucre vanillé, 2 œufs, 300 g de farine.
Bien, maintenant nous allons passer donc à la préparation donc pour ces cookies faciles. Vous aurez pris soin de préchauffer le four thermostat 6, c'est-à-dire à peu près 180 degrés. Ensuite, vous aurez fait ramollir le beurre, puis mettez-le, donc ainsi que le sucre, dans un récipient, et ajoutez-y l'œuf et mélangez. Alors, donc, surtout bien mélanger, afin d'obtenir donc une structure bien homogène entre les œufs, le beurre et le sucre. La couleur est sympa, ça fait jaune soleil, c'est joli. Alors maintenant, nous allons verser le sucre vanillé et mélanger.
Le sucre vanillé, la levure.
La levure, oui. Erreur.
On n'oublie pas la levure.
Non, on n'oublie pas la levure. Alors on mélange bien donc afin d'obtenir donc une structure bien homogène. Nous rappelons donc pour ces cookies, donc nous avons mis 160 g de sucre, 160 g de beurre, 200 g de pépites de chocolat. On ne l'a pas encore mis, hein, ça va intervenir plus tard. Alors aujourd'hui, nous avons préchauffé le four à thermostat 6, 180 degrés. Puis nous avons fait ramollir le beurre, puis mettez-le donc ainsi que le sucre dans un récipient. Rajoutez-y l'œuf et bien mélanger. Ensuite, dernière chose, versez le sucre vanillé, la levure est mélangée.
On ne rigole pas.
Oh non, surtout pas. Non, on est en admiration, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un fouet tonique. Un coup de fouet tonique, d'accord. Si je peux me permettre, il faudrait verser un petit peu de farine. Bien, nous en sommes donc arrivés donc à la quatrième étape de ce dessert. Alors, petit à petit, vous allez verser de la farine tout en remuant donc la pâte afin qu'elle soit bien lisse et homogène. Alors, on verse donc la farine petit à petit, pas trop pour éviter les grumeaux. Donc on vient de reverser donc un peu de farine.
Donc là, on se fait les bras.
Et notre chef s'active. Elle s'active.
Oh non, moi je suis une petite main, voyons. Il dit, c'est vous le chef. Moi je suis. Comment on appelle ça?
Un commis.
Un commis de cuisine, c'est ça? Je suis votre commis.
Oh, bien, quelle dextérité, il nous jette l'écharpe.
Jeter l'écharpe pour pas que ça trempe.
Ouais.
C'est vrai qu'il...
C'est dur, hein.
Ah non, je... C'est bien, ça fait séance de gym en même temps.
Ouais.
C'est parfait.
C'est quand même terrible. Vous avez, ça fait séance de gym gratuite.
Gratuite.
Ensuite, vous faites des cookies que vous pourrez manger gratuitement. Précisons-le bien. Après, donc, mais je vais y revenir. Après, nous allons sur une plaque de papier sulfurisé faire des petits tas. Et on va d'abord donc verser toute notre farine. Et surtout, ne pas oublier les pépites de chocolat. Alors maintenant, nous allons faire donc des boules de cookies. Donc, il faut faire des boules donc avec la texture que nous avons obtenue. Bien, après avoir donc mis nos cookies sur une plaque de papier donc sulfurisée, il faut ensuite les enfourner 10 minutes et dès que les bords des cookies brunissent, vous pouvez les retirer du four.
Aux hivers neigeux, enfant j'y jouais. Jusqu'à en être mouillé, je glissais dans les pentes sur un bout de carton trouvé, jusqu'à ce que le carton lâche et cède. Je jouais jusqu'à la nuit noire, et je rentrais me réchauffer, dans un bon bain chaud et relaxant. Quel beau souvenir. C'est un texte de Vanessa. Salutation.
Smooth Criminal, repris par Alien Ant Farm.
Alors, je vais vous lire un texte de Jean. Un jour, sur la route Napoléon, au pays des Alpes, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes, le pape François, revenant des Pays-Bas avec un fromage proche de la mimolette, se transforme en Hollande lorsqu'il combattit l'armée napoléonienne pour conquérir un harem, fait des chambres élyséennes et devenu la risée des deux roues casquées pour faire apparaître au grand jour l'actrice de sa vie. La tiare papale, mue en sceptre napoléonien, étendant son empire sur toute la gente féminine, Ségolène, Valérie, Judith et j'en passe. C'est alors qu'un drone sous-marin déclenche les foudres des paparazzi à l'affût des dernières chevauchées napoléoniennes, déversant les commentaires de divers organes, principalement de presse. Il n'est resté plus qu'à refermer l'histoire de France, ayant permis de relier trois siècles, sans parler de Joséphine.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, cette fois on sait quand, peu après 1927, et où ? Sur la place de la mairie du New Evreux, la capitale du Nouveau Monde Libre, dirigée avec une main de fer dans une moufle de velours par le Père Noël himself. D'ailleurs, seules les caricatures du Père Noël sont interdites dans ce Nouveau Monde Libre. Le narvalo géant, Marilyn et sa cruche, Juquette le chien qui parle, Air Professor Lovecrash, Bébert le ragondin distingué, la magnifique taupe futée et l'ambigu hermaphrodite surgissent du règne de Troie qu'ils avaient construit dans le but d'attaquer le Père Noël.
Air Professor, sous à la mairie et à son despote bonhomme.
Déjà, Bébert attaque la porte à coups de dents.
Passez devant, je vous couvre avec mon pistolet à cachou et mon lance de truffe made in Nouveau Monde Libre. Le premier nain qui s'approche, je l'écrase avec mon 85 fillette.
Attention, l'alerte est donnée. Les poulets municipaux font pas tarder à se pointer sous leur képi à plumes. Méfiez-vous de leur surf explosif.
Je m'occupe des poulets. Entre volailles, on peut s'arranger.
Sur la droite, qui s'occupe des rats de la médiathèque? Ils sont surentraînés, en théorie.
Moi, on va voir qui c'est le plus balèze des rongeurs. J'ai su affûter mes incisives. Je vais me les caler sous l'écrou. Ça va être une boucherie calal, cachée et halal.
Sur la gauche, des coffres, des phoques amphibies sortent de liton à la part de leur char en sucre à foile et à vapeur.
Des amphibies? Je m'en charge avec plaisir.
Tout d'un coup, soudainement, et son coup fait rire. Et étonnant Bébert, la porte de la mairie s'abat dans un grand fracas de guimauve après que les gants endragés se soient mis à rouler par terre.
Ça glisse, ces conneries de dragées. En plus, j'aime pas ça. Hourra, hourra, grondin. Nous pouvons enfin y pénétrer.
Ni une, ni douze, tous se dirigent vers le cabinet du Père Noël.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu?
C'est le Père Noël, l'infâme Démis Larousseau.
Ben, je m'attendais pas à ça. Moi, plus c'est poilu, plus ça me plaît. Bonjour, jeune homme. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces rois.
Oh, 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 je la connais, celle-là. Rien ne sert de courir. Il faut partir à poil.
Avec ces ciseaux magiques, nous allons voir qui se cache sous cette touffe touffue.
Ah ! Ah ! Laissez-moi tranquille ! J'y tiens, mon look de Yeti. Sans mes poils, je ne sens nu.com.
En effet, imberbe comme un verre, Demi Larousseau semble privé de sa raison. Il se met à chanter ses plus grands succès en se roulant dans ses poils. L'effet est immédiat. Les assaillants tournent de l'œil dans un bel ensemble.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Deux heures après, l'équipe se réveille enchaînée dans le noir. Bref, à l'ombre. Sitôt ses poils recollés, le Père Noël les rejoint au cachot pour un interrogatoire.
Qu'on les badigeonne de confiture et qu'on les livre aux fourmis, ils finiront par parler.
Profitant d'un moment d'inattention, Love Crash se dégage, aidé par un bébé.
En garde ! En garde, c'était Miss Larousseau. J'étais prêt à un tuel de sucre d'orge.
En 97 minutes, Love Crash prend les dessus sur demi Larousseau et s'apprête à lui porter le coup fatal sous la forme de sa fameuse botte de Skywalker. Acculé, le Père Noël fait une ultime révélation.
Luc, je suis ton papa.
Non !
Non !
Je sais pas ce qui me déprime le plus. T'apprendre que tu es mon père ou que je m'appelle Luc.
Je t'ai prénommé Luc car ta mère n'aimait pas Lucky. Elle aurait préféré Rentemplant. Luc, c'était pour te porter chance.
Face à cette révélation, nous ne pouvons pas faire autrement que de suspendre pour un mois la diffusion de ce feuilleton. Il faut laisser du temps au temps et de la pilosité aux esthéticiennes. Mais comment est professeur Luc Love Crash encaissera-t-il le choc? Les poils de demi Larousseau sont-ils comestibles? Et si oui, ne serait-ce pas la solution au problème de la faim dans le monde? À quoi peut-on voir les origines allemandes de Herr Professor Hermaphrodite, alors que la culotte de peau ne fait pas le bavarois? Hermaphrodite ne serait-ce pas un agent double en tant qu'enfant aphrodite? Pour le savoir, rendez-vous le 26 février à la même heure.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre. Et maintenant, nous allons retrouver notre micro-trottoir autour des insectes.
Et si vous aviez vraiment pas le choix en cas de famine, par exemple, est-ce que vous pensez que manger des insectes serait une solution?
Oui, certainement, parce que si c'est une question de vie et de survie, je pense qu'on doit faire fi de tous ces sentiments ou ces a priori, sûrement.
Non.
Non?
Bah non.
D'accord.
Je sais pas si vous mangerez ça, vous.
Pourquoi pas? Dans certains pays, ça se mange.
Oui, mais
avec
bon,
les cuisines,
non,
etc.
Pas du tout. Non.
Si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, je pense qu'on n'aura pas le choix d'en manger, mais bon... À vrai dire, je préférais peut-être me limiter, je pense. Hein, mais bon, après, comme je dis, à la rigueur, je suis pas encore dans la misère, donc... Bon, voilà, je sais pas de quoi.
Oui.
Ouais.
Oui.
Pourquoi?
Bah, parce que je sais qu'il y a plein de peuples qui le font. Et c'est une question mentale de refuser, pourquoi pas. Je trouve pas pire de manger une vache ou manger des... Enfin, voilà.
Est-ce que vous pensez que ça peut contenir des apports pour la santé?
J'imagine que oui, puisqu'il y a des peuples qui le font, ils le feraient pas sinon. Apparemment oui, c'est ce qui se dit.
Ouais. Mais... Donc si vous n'aviez pas le choix, est-ce que vous en mangeriez?
Ah bah si vraiment il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, mais vraiment cadre quoi.
Et quel insecte vous mangeriez en premier?
Une fourmi, c'est ce qu'il y a de plus petit, non?
Une fourmi? Il va falloir manger beaucoup alors.
Parce que ça reste de la nourriture dans tous les cas, donc j'imagine que en cas de famine, faut bien se nourrir, donc on fait avec ce qu'on a. Donc.
Je pense que je suis d'accord. Enfin, en cas de famine, s'il reste vraiment rien à manger, faut bien se rabattre sur quelque chose. Donc je pense qu'il reste, s'il reste que ça, faut faire avec.
Alors, par exemple, en temps de guerre, les gens se posaient pas de questions, ils mangeaient des chiens, les chats, donc enfin moi je trouverais pas ça choquant, surtout en cas de famine.
Oui. Bien sûr, je crois même qu'il y a des pays qui le font.
Et quel insecte vous mangeriez en premier?
Oh là, vous êtes dur. Hein. Oh là, vous êtes dur. J'espère, je ne sais pas, j'essaierai de trouver celui qui serait le plus riche en protéines, genre, je sais pas, des abeilles. Non, franchement, je vois pas. Hein.
Et sous quelle forme vous les mangeriez, les
grillé.
Abeilles?
Grillé. Ah oui, ça, sans hésiter, hein, bien grillé.
Vous pensez que ça a quel goût, l'abeille?
Je ne sais pas, mais comme je les déteste, j'aurais peut-être moins de mal à les manger. Je les déteste en tant qu'insecte vivant.
Ben oui, c'est une solution, bien sûr. Hein. Si c'est pour se nourrir, si c'est pour vivre, si on n'a pas le choix, ah oui. pas de problème.
Et quel insecte vous mangeriez en premier ?
Quel insecte je mangerais en premier ? Une coccinelle, c'est un insecte ?
Oui.
Oui, une coccinelle.
Une coccinelle. Et de quelle façon vous la mangeriez ? Cuite, crue ?
Cuite.
Cuite ?
Oui.
D'accord. Et vous pensez que ça a quel goût, la coccinelle ?
Déjà, il ne doit pas y avoir beaucoup de viande dedans, donc il faut en manger beaucoup, à mon avis. Quel goût J'ai aucune idée du goût de la coccinelle, et même de tous les insectes.
Il faudrait bien, oui.
Ouais.
Éventuellement. Il paraît que c'est plein de protéines, et que effectivement, bon, il y a certaines populations qui en mangent facilement, notamment les Asiatiques, donc en fait, bah, pourquoi pas.
Et quel insecte vous mangeriez en premier ?
Bah alors là, je ne sais pas. Hein, je dis...
Et vous pensez que ça a quel goût, les insectes ?
Ah bah, voir certains reportages, en fait, je vois que certaines personnes ne sont pas trop choquées par le goût, je pense. Donc, pourquoi pas ? Il y a certains goûts qui sont, une fois cuits, qui sont assez... assez mous, assez... Et sinon, il y a du croquant, en fait, aussi, hein, avec ouais. L'extérieur. Donc, voilà. Au niveau du goût, alors là, c'est la surprise.
Il faudrait goûter pour savoir.
Oui, tout à fait.
Exact.
Bah oui, bien sûr.
Et pourquoi ?
Bah, il y a la... Comment dirais-je ? Il y a l'instinct de conservation, hein.
Ouais.
Voilà.
Et quel insecte vous mangeriez en premier ?
Oh, Je sais pas, les araignées.
Les araignées ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Faites de quelle façon ? Cuit, cru ?
Cuit.
Cuit ?
Ah oui.
D'accord. Et vous pensez que ça a quel goût, l'araignée ?
J'en sais rien, je n'ai jamais mangé.
D'accord. Et vous pensez que ça a quel goût, la sauterelle, par exemple ?
Ah ça, j'en ai aucune idée, je n'ai jamais mangé, donc ça doit être un peu craquant sur la dent.
Et vous mangeriez de quel en premier ?
Franchement, c'est même pas envisageable, en fait. Donc... C'est pas envisageable. Pour l'instant, franchement, non.
Quelle relation vous entretenez avec les insectes quand ils viennent chez vous, par exemple ?
Ah, moi, j'aime bien les insectes. C'est-à-dire que je ne les tue pas. C'est-à-dire qu'ils s'en vont d'eux-mêmes ou je les fais sortir, j'ouvre la fenêtre, si c'est des mouches. Voilà, je les fais sortir par la fenêtre. Les coccinelles, bien sûr, je les fais partir aussi. Les araignées, j'ai pas peur des araignées.
Bon, les tue ?
Vous les tuez ?
Oui.
D'accord.
Ils viennent chez moi, je les chasse ou ça dépend, si c'est un moustique j'essaye de l'écraser,
ouais.
Mais on a des araignées à la maison, on enlève les toiles et puis on les met dehors parce que c'est bon, ça chasse les mouches.
J'ai l'habitude de pas les écraser, j'ai pris l'habitude de, par exemple, quand s'il y a une coccinelle, bah, de la remettre dehors, ou une araignée, bah, je prends un verre et puis je la remets dehors pareil. Enfin, moi, je suis pas particulièrement agressif, on va dire, avec les animaux. Donc, et les insectes, voilà, je les déplace, quoi, tout simplement.
Moi, je suis pas trop fan des insectes non plus. Enfin, s'il y en a une chez moi, ça dépend ce que c'est, en fait. Mais s'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider pour la sortir ou faire quelque chose, je veux bien, ça me gêne pas.
Je les écrase. Je les écrase.
Bah oui. Bah, je suis allergique aux piqûres d'insectes, donc on n'est pas très amis.
Vous n'êtes pas très copains ?
Non.
Non, encore. Donc vous en faites quoi quand vous les voyez se balader ?
J'ouvre la fenêtre, je les laisse. Hein, je cultive même des plantes pour préserver la biodiversité, pour qu'il y ait plein d'insectes dans mon jardin, dans mon potager. Mais je me couvre, voilà. Mais je m'arrange pour qu'ils ne m'approchent pas.
D'accord, bah, merci.
Je n'en ai pas une phobie, mais je les enlève, je les chasse, je les tue à l'occasion, mais j'essaie de ne pas en avoir. En général, je les sors, mais moins il y en a, mieux c'est. Hein.
D'accord.
Ah, bah, on les chasse, on les écrase, on les pulvérise.
Tous ?
Ouais, ouais.
Là.
Oui, alors je les tue.
Vous les tuez ?
Oui.
Tous ?
Oui, tous.
D'accord.
Mais vous les mangez pas ?
Non, jamais, non. Non, parce que déjà, je ne suis pas très animal. Je ne suis pas contre les animaux, mais je n'ai jamais eu d'animaux. Alors ça fait que, bien sûr, quand on n'a pas l'habitude.
La prestigieuse université de Corée du Nord vient de rendre publique une étude surprenante. L'admiration serait un sentiment aux vertus quasi miraculeuses pour notre santé mentale. Une étude des plus sérieuses, puisqu'elle a été menée par 2 chercheurs sur une population de 4 individus sur une période de pratiquement 3 jours. L'étude portait sur l'admiration du président nord-coréen, un choix qui s'imposait naturellement aux scientifiques, dont l'illustre dirigeant est plébiscité par ses concitoyens. Les conclusions des chercheurs sont indiscutables. L'admiration des Nord-Coréens pour leur bon président font d'eux le peuple le plus heureux de la planète devant les Chinois et les Russes. Une étude qui interroge forcément les pays décadents de l'Occident, et en particulier en France, dont le peuple est au contraire le plus malheureux du monde. Une étude d'autant plus troublante lorsque l'on consulte les sondages de popularité du président en place. La première réponse viendra d'une université du sud-est de la France qui publiera la conclusion suivante. Oui, la Corée du Nord est l'exemple à suivre pour amener le bonheur aux Français. Ils émettront les recommandations suivantes. Premièrement, le choix est un facteur essentiel du stress. Il est donc préconisé de le limiter au maximum. Ainsi devront être supprimées les élections et instaurer le parti unique. Deuxièmement, la diversité est un facteur essentiel de la peur. Il est donc préconisé de renationaliser tous les médias, d'instaurer un ministère de l'information et une religion unique. Et troisièmement, le changement est lui aussi source de perturbations. Il est donc préconisé de ne plus changer de président. Des propositions simples et qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres pays, qui constitueraient un bon point de départ pour remettre la France sur les rails du bonheur. Suivons donc l'exemple nord-coréen, soyons pragmatiques.
Ramassa avec le titre Lotus Eater.
Je te jure, ce n'est pas moi. Toujours la même chose. Tu m'insultes, tu m'accables, et encore, c'est toi. À se demander ce que tu cherches derrière ces accusations. Toujours pour te disculper, être responsable de ce qui s'est passé et que tu connais mieux que moi. Que chercher dans la culpabilité, dans l'incrimination, si ce n'est une volonté de nuire, d'avilir et d'offenser? Alors je te préviens, si pour te prémunir de toute sanction tu as besoin de jurons, de colère, tu te trompes d'adresse. Revérifie ton fichier. Et si tu cherches un coupable pour assouvir ton besoin de revanche, adresse-toi à la porte d'à côté, en sachant bien que c'est un gorille qui t'accueillera. À bon entendeur, salut. C'était un texte de Jean de la Lune.
Alors, chronique du pôle, on a choisi de vous parler des phobies. On a bien vu que en construisant l'émission, manger des insectes et parler des insectes avait suscité quelques réactions chez certains et certaines. Donc voilà, on a décidé de vous parler des phobies, donc du grec phobos, effroi. La phobie est une peur intense, obsédante, angoissante et éprouvée dans des circonstances déterminées. Les phobies font partie de la mémoire collective de l'humanité à une époque où les animaux, la nature représentaient une menace réelle pour l'homme. Tout être humain a ses petites phobies, peur des insectes, des serpents. Elles ne présentent pourtant pas un caractère pathologique tant qu'elles ne viennent pas entraver le quotidien du sujet. Quand elles deviennent des peurs irrationnelles, déclenchées par une situation spécifique et n'ayant pas un caractère réellement dangereux, mais elle provoque chez le sujet une réaction intense. D'après les tenants de... Non. Donc la plupart du temps, on voit aussi dans la petite enfance beaucoup de phobies. Elles sont transitoires et spécifiques. Ces angoisses primitives disparaissent au fur et à mesure du développement de l'enfant. Une fois qu'il appréhende le monde, qu'il entoure avec plus de réalisme, se rendant compte que le noir n'est pas dangereux en lui-même, que les monstres n'existent pas, et que se blesser et verser une goutte de sang n'est pas catastrophique. Alors, les phobies de l'adulte et les phobies pathologiques sont, d'après les tenants de la psychanalyse, conséquences d'un refoulement. Pour essayer d'expliquer les choses assez simplement, il y a un mouvement pulsionnel, une angoisse, et le sujet va projeter cette angoisse sur un objet extérieur. Finalement, ce qui était interne devient externe. C'est un mécanisme de défense, mais qui peut devenir effectivement entravant dans la vie du sujet. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur le sujet.
Eh bien, ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui sur la radio Principe Actif. Nous espérons que l'évocation du thème des insectes comestibles ne vous a pas coupé l'appétit. Les podcasts sont toujours disponibles sur le site principeactif.net. Nous remercions encore Clémence Cellier de la société Guiminis d'avoir bien voulu nous éclairer sur les petites bêtes mangées par les grosses, ainsi que l'équipe de Principe Actif. Et nous vous donnons rendez-vous le jeudi 26 février à 12h30 pour notre prochaine émission.